Vous écoutez On lit pour vous.
Des organisations queer tournent le dos à Fierté Montréal. Un texte de Salomé Marie paru le 17 avril 2025 dans Urbania. Quand la communauté LGBTQ+ montréalaise se fissure. Non-respect d'engagement contractuel, manque de transparence, liens présumés avec des groupes et institutions soutenant Israël. Plusieurs collectifs artistiques et organismes communautaires queer ont récemment annoncé qu'ils se dissociaient de Fierté Montréal pour ces raisons. Pour sa part, l'organisation rejette ces allégations tout en assurant qu'elle est ouverte au dialogue et prête à rectifier le tir. Dans la foulée de ces tensions, un nouveau festival voit le jour, la Wild Pride Montreal, ayant pour but de reprendre possession de la fierté en proposant une alternative engagée et non corporative. Ces événements surviennent moins d'un an après l'interruption momentanée du dernier défilé officiel de Fierté Montréal par des manifestants pro-palestiniens et des manifestantes pro-palestiniennes. 8 mois plus tard, les dissensions demeurent vives. Des collaborations qui tournent mal. Le 4 avril dernier, les collectifs artistiques Sweet Like Honey, Blush, Elle Lui et Discono, qui organisent des événements festifs pour la communauté queer, particulièrement lesbo-queer, ont publié une déclaration commune sur Instagram. Ils y ont accusé Fierté Montréal de comportement abusif. Non-respect d'entente, travail sous-payé ou non rémunéré et manque de transparence sur le plan financier. Ils y ont également annoncé leur dissociation de l'organisation. Urbania s'est entretenu avec les 4 collectifs qui affirment avoir eu des expériences négatives avec Fierté Montréal. Selon leur dire, l'organisation leur aurait notamment refilé des frais qu'elle s'était pourtant engagée à couvrir et aurait tenté de dissuader un collectif de réclamer une rémunération après avoir travaillé à l'organisation d'un événement. En plus des présumées ruptures de contrat, les collectifs plaident que leurs besoins n'ont pas été entendus. On a partagé des besoins particuliers de nos communautés, comme le fait qu'un billet à 35-40 piastres, ce n'est pas abordable pour des personnes à l'intersection des identités avec lesquelles on travaille, explique Héloïse Halliburton, fondatrice du collectif Elle Lui, qui a collaboré avec Fierté Montréal pour l'événement Heated en août 2023. Les billets en admission générale s'étaient finalement vendus à 30 $ plus frais. Avery Burrow, fondatrice de Blush, estime également que l'événement Fantasme, que son collectif a organisé en 2024 avec Sweet Like Honey et Lost Cove, en collaboration avec Fierté Montréal, était beaucoup trop cher pour notre public. Elle explique que la communauté lesbo-queer est particulièrement vulnérable sur le plan économique comparativement à d'autres groupes de la communauté LGBTQ+. Dans les commentaires défilant sous la publication des collectifs, la solidarité abonde. De nombreux membres et de nombreuses membres de la communauté LGBTQ+, y partagent leur appui ainsi que leur mauvaise expérience avec Fierté Montréal. Fierté Montréal se défend, mais tend la main. Le 9 avril, Fierté Montréal a réagi via un communiqué publié sur son site Internet. « Nous dénonçons que ces collectifs contribuent intentionnellement à des efforts de désinformation à notre sujet », peut-on y lire. « Nos contrats sont transparents et partagés avec les artistes et les collectifs avec qui nous collaborons. Toute clause peut être négociée, révisé et modifié. Nous respectons nos responsabilités contractuelles et mettons en place des mesures d'atténuation en cas d'imprévu, assure l'organisation. Le directeur général, Simon Gamache, admet toutefois que certaines erreurs ont pu être commises. Il se peut qu'il y ait des choses qui ne se soient pas nécessairement bien passées, mais on est à l'écoute, puis on veut absolument rectifier le tir, a-t-il déclaré en entrevue. Il explique que ces allégations ont un impact direct sur son organisation. On a eu beaucoup de discussions à l'interne par rapport à ça. Comment peut-on mieux faire les choses? Comment peut-on s'assurer que ces personnes, ces groupes-là, soient représentés? Des groupes qui sont davantage marginalisés, explique le directeur général, réitérant sa volonté de tendre la main aux collectifs dissidents. Mais les attaques ont été quand même très virulentes. Surtout que nous, on est toujours ouvert à discuter puis à régler ça directement avec les groupes, se désole-t-il. Des organismes communautaires suivent le pas. Le 14 avril, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALAC, de l'ouest de l'île, a également annoncé qu'il rompait ses liens avec Fierté Montréal, se joignant du même coup aux organismes Helem Montréal, Jeunesse Lambda, la coalition des groupes jeunesse LGBTQ+, et Alter Héros. La raison principale? L'association présumée de Fierté Montréal avec des groupes sionistes. Une accusation dont se défend sans détour Simon Gamache. On ne se positionne pas dans des conflits géopolitiques. On est tout à fait empathique avec ce que les communautés peuvent vivre ici et ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais d'aller dire qu'on travaille avec des organisations sionistes, non, ça ce n'est pas vrai. L'année passée, il y a eu des groupes juifs queer qui ont voulu prendre leur place, puis qui ont eu une place dans le défilé, comme plein d'autres groupes, dont des groupes pro-palestiniens qui avaient aussi leur place dans le défilé, explique-t-il. Nous, ce sont les voix queer qu'on veut amplifier, peu importe leur origine, leur religion. Le 19 février, avant que tout n'éclate, Gamache avait publié une lettre ouverte dans Fugue, dans laquelle il dénonçait la division au sein de la communauté queer au sujet de son organisation et tentait de corriger des informations qui circulaient à son sujet. « Fierté Montréal ne finance aucune organisation israélienne ni aucune organisation internationale », peut-on y lire. Mais sur le terrain, plusieurs organisations affirment ne plus se sentir représentées par Fierté Montréal. Depuis l'existence de Helem, on travaille avec Fierté, mais ces dernières années, on ressent vraiment une déconnexion face à nos besoins et face à leur engagement envers la communauté. Et on n'est pas les seuls à ressentir ça. Avance Yara Koussa, membre du CA de Helem Montréal, un organisme dédié aux communautés queer arabophones, et membre fondatrice de la Wild Pride. Wild Pride, une fierté alternative, voit le jour. C'est dans ce contexte de division qu'émerge Wild Pride Montreal, proposant de reprendre possession de la fierté. Le collectif prévoit organiser de nombreux événements pour la communauté en plus d'un défilé. Composé de plusieurs organisations et personnes queer, le collectif est né d'un besoin urgent de nous recentrer sur nos valeurs fondamentales qui sont la résistance, la solidarité, la célébration authentique de nos identités et non pas la corporisation de notre parade, affirme Yara Koussa. Dans un communiqué qu'il a fait parvenir à Urbania, le collectif accuse par la bande Fierté Montréal de « pinkwashing », soit une stratégie de communication qui consiste à mettre de l'avant le soutien d'une entreprise ou organisation aux communautés LGBTQ+, à des fins d'image, sans engagement concret envers celle-ci. Nous exigeons le remplacement immédiat du directeur général, Simon Gamache, la rupture de tout lien avec les corporations exploitantes et complices de génocide et une réponse aux demandes des organisations communautaires affirmant sa solidarité avec les peuples colonisés et victimes de violences gouvernementales de l'île de la Tortue à la Palestine, peut-on y lire. Dans une publication Instagram datée du 14 avril, le collectif annonçait la création de la Wild Pride et appelait les organisations et artistes queer à s'impliquer. Yarakoussa affirme qu'en deux jours, le collectif avait déjà reçu 328 applications. La Wild Pride, c'est positif, avance de son côté Simon Gamache. Dans la communauté LGBTQ+, il y a une diversité de personnes et de perspectives. C'est tout à fait sain qu'il y ait ça. La Wild Pride, je suis super content que ça ait lieu parce que c'est une plateforme supplémentaire pour les artistes queer, puis on en a besoin de plus en plus, ajoute-t-il. Le directeur général se désole toutefois que la situation se soit autant enflammée. Malgré la rupture, la multiplication d'espaces où les communautés queer peuvent perdurer semble porteuse. Il ne reste plus qu'à voir si celles-ci parviennent à coexister au sein d'une même métropole. C'était « Des organisations queer tournent le dos à Fierté Montréal », un texte de Salomé Mahari, paru le 17 avril 2025 dans Urbania.
On court et on est égaux. Un texte de Jean-François Théotonio, paru le 30 avril 2025 dans La Presse. C'était l'heure du lunch, jeudi le 24 avril 2025, au centre-ville de Montréal, et l'image était symbolique en quelque sorte. Des gens de tous les styles faisaient la file pour la récupération des dossards en vue de la course 21K de Montréal, organisé au Parc Jean-Drapeau deux jours plus tard. Symbolique, parce que cet homme en veston, ses jeunes amis, ses adultes de tous les âges, certains déjà en vêtements de sport, d'autres en civil, ils étaient tous rassemblés là, au troisième étage du Sport Expert, liés par la même passion, la course à pied. Ça aplanit toutes les différences sociales, estime Sikvai, coureuse aguerrie, avec qui la presse a discuté, entourée de chaussures de sport étalées sur les murs. On court avec des avocats, des gens qui travaillent au dépanneur, des médecins, des professeurs, des gens qui restent à la maison. C'est pourquoi c'est aussi populaire. Il n'y a pas de droit de regard sur ton occupation principale. On court et on est égaux. Sikvai est aujourd'hui ce qu'on appelle, dans le jargon, un lapin. C'est-à-dire cette personne qui porte le panneau indiquant, par exemple, l'objectif de 2 heures pour les coureurs qui souhaitent l'atteindre. Le lapin va encourager les participants à manger et à boire au point de ravitaillement, à accélérer ou décélérer la cadence, selon son groupe. Sikvai se rappelle encore sa première course de 21 km en 2014. Je vois le lapin au loin et je me dis « Purée, je vais manger le lapin !» Si vous ne l'aviez pas remarqué jusqu'à maintenant, sachez que Sikvai est débarqué devant la presse comme une véritable boule d'énergie. Je me dis que je vais rattraper le lapin. Était juste content, peu importe le chiffre qui est écrit. Être lapin, c'est d'aider quelqu'un dans la joie, dans la bonne humeur, et lui faire oublier qu'il a mal aux jambes. Plusieurs communautés de coureurs, dit-elle, mettent de l'avant l'idée de ne jamais laisser personne derrière, ce qui revient à cette idée d'égalité sur le chemin du coureur. La personne qui va être plus lente, il y a toujours des gens qui vont venir la chercher, souligne-t-elle. Personne n'est tout seul. On est tous le lapin de quelqu'un. J'y vais pour l'ambiance. Le week-end du 26-27 avril 2025, avait donc lieu la course 21K de Montréal, organisée par Couron MTL, le même organisme qui s'occupe du Marathon Beneva de Montréal. Cette année, 7500 coureurs ont pris part aux 21 km, tandis que déjà 19 000 personnes se sont inscrites au marathon de septembre 2025 pour une projection de 32 500 participants. C'est donc dire que 40 000 coureurs s'élanceront sur ces deux courses montréalaises cette année. Ce sont les plus gros chiffres depuis avant la pandémie, soutient Alex Raté, producteur délégué des deux événements. Comment s'explique-t-il cette popularité en essor? C'est un sport accessible, dit-il. On parle beaucoup de saines habitudes de vie. La course à pied, c'est un peu la base de tous les sports. À ce sujet, Raté avoue avoir la prétention de dire que c'est 40 000 personnes sur deux événements qui ont à cœur leur santé. On est vraiment en prévention. Ce sont des gens qui auront moins à consulter pour différents problèmes. On peut vraiment se positionner comme un acteur important dans la santé et la vie des gens. Un coureur, ajoute le producteur délégué, est un vecteur de changement dans sa famille, sa communauté. S'il se met à mieux manger et à adopter de bonnes habitudes, il y a plus de chances que sa famille, comme ses enfants, suivent la parade. Mais cette inspiration ne se transmet pas que dans les chaumières. Aux 21 km comme au marathon, il y a des stations d'encouragement menées par différents clubs de course à pied de Montréal. Et ça, ça fait toute la différence. J'y vais pour l'ambiance, nous dit David, que nous accostons après la récupération de son dossard au Sport Expert. J'ai déjà fait cette course il y a 2 ans. L'ambiance et l'énergie des gens qui viennent encourager, ça donne un petit plus. Tout seul, ce n'est pas pareil. L'énergie, on la sent vraiment. Même son de cloche pour Inès et Chadine, de jeunes amis qui s'apprêtaient à participer à leur premier demi-marathon. Elles citent toutes les deux l'énergie et l'encouragement des personnes réunies à cette fin. « J'ai toujours eu du mal avec la course, » dit Chadine. « Et là, ça fait 6 mois que je m'y suis mise. J'aimerais bien faire un demi-marathon pour ensuite faire un marathon. C'est mon premier. On va s'encourager ensemble. » dit Inès. Pour Sikvai, le pouvoir du groupe, c'est inestimable. Quand tu sais que des gens seront là pour t'attendre, que tu sais que tu vas les voir et qu'ils vont t'encourager, c'est incroyable. Après, t'as des ailes pendant 30 secondes et beaucoup de remords. C'était « On court et on est égaux », un texte de Jean-François Théotonio, paru le 30 avril 2025 dans la presse.
Les snowbirds canadiens confrontés à un durcissement des règles de séjour aux États-Unis, un texte de l'agence France-Presse paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir. Les Canadiens qui restent plus d'un mois aux États-Unis vont bientôt devoir s'enregistrer auprès des autorités américaines, selon une nouvelle règle publiée mercredi 12 mars 2025 en pleine offensive de Donald Trump contre le pays voisin. Cette réglementation, parue au Journal officiel américain, applique un décret pris par le président américain et renforce l'application d'une loi existante pour laquelle les Canadiens étaient, en pratique, exempté. Amené à prendre effet le 11 avril 2025, elle devrait particulièrement toucher les nombreux retraités canadiens qui passent leur hiver dans le sud des États-Unis. Le Canada est la cible depuis des semaines de Donald Trump qui ne retient pas ses coups diplomatiques ou commerciaux contre son voisin et premier partenaire commercial. Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium du monde entier, et le dirigeant républicain a laissé entendre pendant quelques heures la veille qu'il taxerait son voisin le double avant de rétropédaler. Il a aussi souhaité à sa manière la bienvenue au futur premier ministre canadien Mark Carney, sur le point de prendre les rênes du pays, en martelant son souhait de faire du voisin du Nord un État américain. La réglementation va toucher entre 2,2 et 3,2 millions de personnes, relève le département américain de la sécurité intérieure, dont les visiteurs canadiens qui sont entrés aux États-Unis par des postes frontières terrestres et auxquels il n'a pas été remis une preuve d'enregistrement. Chaque année, des centaines de milliers de retraités fuient l'hiver canadien pour la douceur du sud des États-Unis, notamment en Floride. Ils sont surnommés les « snowbirds ». Des associations canadiennes qui les représentent se sont récemment inquiétées publiquement d'être affectées par le décret sur l'immigration signé le 20 janvier par Donald Trump. C'était les snowbirds canadiens confrontés à un durcissement des règles de séjour aux États-Unis, un texte de l'agence France Presse paru le 12 mars 2025 dans Le Devoir.
Voir les matières résiduelles comme des matières premières. Un texte de Julie Roy, paru le 13 mai 2025 dans La Presse. Impossible de manquer la nouvelle usine de Soprema en roulant sur l'autoroute 20 à la hauteur de Drummondville. L'entreprise française, spécialiste des produits d'étanchéité et d'isolation, a inauguré cette installation en janvier 2025, un investissement de 30 millions de dollars qui donne une seconde vie à des millions de bouteilles de plastique. Nous sommes en ce moment en période de rodage. D'ici l'été 2025, nous serons en mesure d'extraire le polyol, une substance pétrolière présente dans les bouteilles de plastique, explique Jean-François Côté, directeur des affaires scientifiques et de la normalisation chez Soprema. Une fois extrait, le polyol servira à la fabrication de panneaux d'isolation, notamment utilisés pour les toitures de grands bâtiments industriels et les résidences. Rien ne change avec la nouvelle recette, dit M. Côté. On parle de la même efficacité, au même coût, mais plus vert, car on donne une deuxième vie à une substance pétrolière. Ce n'est pas le premier geste environnemental de Soprema. Il y a un an, l'entreprise lançait son programme Sopraloop pour la récupération de glacines, mais aussi d'autres papiers et cartons qui sont acheminés à l'usine de Sainte-Julie pour y être transformé en isolant de cellulose. Soprema s'attaque aussi au polystyrène que l'on retrouve, entre autres, dans les emballages protecteurs de produits électroniques. Nous avons réalisé des ententes avec 4 centres de tri, Sherbrooke, Granby, Val-Saint-François et Haut-Saint-François. Nous avons fourni un densificateur qui permet de condenser cette matière afin d'en faciliter le transport à notre usine de Sherbrooke. Ainsi, au lieu de 10 camions, nous en avons besoin d'un seul pour transporter le même tonnage, affirme Jean-François Côté. En tout, Soprema récupère chaque année 10 000 tonnes métriques de polystyrène qu'elle transforme en panneaux principalement utilisés comme isolation thermique pour les systèmes de fondation, de murs, de stationnement et de toiture inversée, dont les toits terrasses et les toits verts. On parle de 4,5 millions de panneaux qui contiennent jusqu'à 70 % de contenu recyclé et valorisé. Cela demande beaucoup de matières premières. C'est pour cela que l'on doit changer nos perceptions au sujet des polystyrènes. Non, le grade numéro 6, comme indiqué sur les barquettes de viande, n'est pas un déchet. Pour nous, c'est une matière première. Le marché de Soprema ne concerne pas uniquement les nouvelles constructions. L'entreprise croit aussi au potentiel d'amélioration énergétique des maisons existantes. C'est pour cela qu'elle a aussi développé des produits pour l'industrie de la rénovation. Soprema a notamment investi le marché de la mousse isolante en cartouches. C'est une offensive que nous avons faite en 2024 pour aider les consommateurs à améliorer l'isolation autour de leurs fenêtres lorsqu'ils font des rénovations en ce sens. Ce sont, en quelque sorte, des compléments aux bandes d'étanchéité pour réduire la pénétration de l'air. C'est un petit pas qui peut grandement aider, soutient-il. De plus en plus éco-conçu. Soprema met par ailleurs beaucoup d'énergie à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, GES. Pour y arriver, l'entreprise mise beaucoup sur l'éco-conception de ses produits. Notre équipe de recherche et développement compte 25 personnes. Aujourd'hui, une cinquantaine de projets sont en cours et tous comportent un volet d'amélioration environnementale. C'est un enjeu majeur pour nous, car 80 % de nos émissions de GES proviennent des intrants qu'on retrouve dans nos produits, d'où l'importance de mieux concevoir à la base, soutient Jean-François Côté. D'ailleurs, l'un des prochains gros projets se concentrera sur le recyclage du bitume arrivé en fin de vie. Soprema en bref. Année de fondation, 1908, à Strasbourg, en France, société mère. Arrivée au Québec en 1978, Soprema a des usines à Sherbrooke, Beauport, Richmond, Terrebonne, Sainte-Julie et Drummondville, siège social nord-américain. Au total, 730 personnes travaillent pour l'entreprise au Québec et 1000 au Canada. Soprema compte plus de 11 200 employés dans le monde qui travaillent dans 120 filiales. C'était « Voir les matières résiduelles comme des matières premières », un texte de Julie Roy, paru le 13 mai 2025 dans La Presse.